Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Furia Liga. Au programme ce soir, un retour sur Espagne-Portugal, jusqu'à présent le plus beau match du mondial, un focus sur l'Iran et l'épilogue des barrages de Segunda remporté par Valladolid. Ce soir, la joyeuse bande joue sans la vidéo. Canarien comme David Silva, s'il était un buteur, il serait Santa Cruz. Jepincho, bonsoir. Je crois qu'on a perdu G. Ça commence fort. Pour ce podcast numéro 47, nous accueillons un invité de qualité ce soir. Bonsoir. Il y a un petit décalage. T'es en Russie là ou quoi?
Ah bah non.
Bref, on va enchaîner. Nous accueillons ce soir un invité de qualité en la présence du plus blaugrana des Iraniens et vice-versa. Navid, bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est un honneur.
Voilà, partagez. Sur Twitter, tu es @barcelonista_fr.
Oui.
Voilà, pour repérer, pour que si jamais il y a des tweetos qui nous écoutent, qui te repèrent bien dans l'espace et dans la nébuleuse coulée sur Twitter. Alors, avant toute chose, il faut savoir si on a récupéré G. Si t'as l'heure, il doit être à l'heure canal, il n'y a pas Pedro Sola. Je le crains. bref, on va attaquer avec Espagne-Portugal, qui a été un match absolument incroyable, 3-3, jusqu'à présent le match le plus rythmé, le plus beau du mondial, n'ayons pas peur des mots, avec un super Cristiano Ronaldo qui a mis un triplé, notamment ce coup franc. Nous n'avons pas habitué à mettre des coups francs comme ça, Cristiano Ronaldo, et puis une Espagne qui a rassuré au niveau de son jeu, surtout après le séisme de la semaine dernière avec le changement de sélectionneur. Navid, t'en as pensé quoi, toi, de ce match?
Franchement, je l'ai vu en diagonale, mais ce que j'ai vu, c'était assez explosif. Et franchement, on avait des doutes sur l'Espagne, notamment après le limogeage de Lopetegui et l'arrivée de Hierro. Et franchement, il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour l'Espagne, je pense. Il n'y a pas d'inquiétude, à part peut-être parfois des petits moments de doute. Je pense qu'ils vont réussir à aller facilement jusqu'en quart de finale.
Oui, je pense aussi qu'ils vont sortir. C'était quand même surprenant ce match, parce que au final les deux équipes, on a beaucoup parlé de l'équipe de France qui avait gagné 2-1 à l'arrache, c'était pas terrible. Il y a des équipes qui ont perdu comme l'Allemagne ou qui ont été tenues en échec comme l'Argentine. Mais finalement les deux équipes qui sont le plus rassurés sur leur potentiel, finalement, ce sont ces deux équipes-là qui ont fait match nul, mais qui savent à peu près où ils en sont et où en est leur potentiel collectif. C'est-à-dire que le Portugal est finalement sur sa lancée de l'Euro, et en plus, gros avantage, ils savent que leur joueur vedette, Ronaldo, est ultra en forme.
Oui, voilà. Le Portugal, on les attendait, limite pour certains, on ne les attendait pas aussi haut. On ne pensait pas qu'ils arriveraient à faire jeu égal avec l'Espagne. Je pense que le chamboulement qui a eu lieu à la Roja a un peu peut-être été encore dans les têtes des Espagnols. Et du côté portugais, ils ont continué sur leur lancée de l'Euro 2016, comme tu l'as dit. Et forcément, ça a donné des résultats. Ils ont été très réalistes devant les buts. Les coups francs, les pénaltys, c'était très bien recherché. Et ils ont continué, voilà. C'était leur choix. Après, l'Espagne, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites erreurs, que ce soit de la part de Nacho sur le penalty, Piqué aussi un peu sur le coup franc du 3-3. Mais sur le fond, les deux équipes étaient telles qu'on les attendait. Même sans oublier, en oubliant bien sûr le limogeage de Lopetegui.
Tu en as pensé quoi, toi, du match de David De Gea? Parce que, t'es habitué ici sur ce podcast. Je suis absolument pas fan de De Gea. Bon, le problème, c'est qu'en Espagne, il y a De Gea ou rien d'autre à l'heure actuelle, parce que Pepe Reina, il passe les disques, et Kepa Arrizabalaga, c'est un très bon gardien, mais il a qu'une seule sélection. Et alors, il y a eu un sondage en Espagne. Les Espagnols sont friands de sondages plus kafkaïens les uns que les autres, on va dire. Et il y a près de la moitié des supporters ou estampillés supporters qui voulaient que Kepa soit titulaire pour le prochain match contre l'Iran. Ça me semble être un peu compliqué à la fois pour De Gea, parce que tu le mettrais en grande difficulté, et aussi pour Kepa, si ça ne se passe pas bien, ça pourrait aussi le cramer. T'en penses quoi, toi, de ce du alors du match de Déréa, j'ai une petite idée, mais de la suite de son tournoi?
Ouais, donc c'est pas quand on voit un petit peu derrière ses derniers matchs, parce que quand on reprend la Suisse, il n'est pas exempt de tout reproche sur son intervention sur le but suisse. Et on en avait déjà parlé hein, depuis plusieurs années, enfin plusieurs années, plusieurs mois, avec notamment avec Elias. On se rend compte que De Gea, c'est pas non plus voilà l'assurance tout risque. Et il a encore démontré là, hein, il se trouve. Et ce qui est problématique, c'est que comme tu le disais, le deuxième gardien, c'est Pep Reina, qui jouera certainement pas, et on a un petit jeune qui est là pour en fait prendre un peu d'expérience et qui n'est pas prêt non plus de pour être titulaire. Donc, je pense pas que Hierro changera donc de gardien, mais c'est vrai que ça peut coûter des points, notamment dans les phases de groupe, mais aussi plus tard dans les matchs à élimination directe, où, parce que bon, on espère et je pense que vu le jeu proposé, l'Espagne ira en 8e au minimum. Et c'est vrai que là, ça va poser problème, parce que s'il n'est pas rassurant et s'il rassure pas sa défense, ça va provoquer une sorte de. Ça va planer, il va y avoir un petit doute qui va planer donc sur cette défense espagnole. Et ça peut donc provoquer, vous savez, hein, quand il y a un manque de confiance d'un côté, de l'autre, ben on fait tout pour enfoncer le clou. Et j'ai bien peur que si De Gea est au fond, fond du trou, les adversaires vont en profiter.
On va faire une petite revue d'effectifs à partir de la défense, entre Ramos et Piqué, notamment la charnière. Parce qu'on
Oui.
l'a dit, Navid, il y a eu quand même pour moi une très grosse erreur de Piqué sur le coup franc qui a amené l'égalisation de Ronaldo. Cette faute sur Ronaldo, il est dos au jeu, il n'a pas vraiment se tourner. Piqué se fait quand même avoir comme un bleu, parce qu'il n'y a pas vraiment de contact, mais bon, voilà. Voilà, c'est pas, je trouve pas ça digne d'un défenseur international au Barça. Voilà. Ouais, tout à fait clair, surtout à ce moment-là du match où il est ultra concentré. Et de l'autre côté, Sergio Ramos, qui a eu en tant que capitaine, a fait la conférence de presse avec Hierro, a été sollicité par le Real pour valider l'arrivée de Lopetegui. Et puis, il a raté deux diagonales en début de match, et après, il a tout réussi.
Ouais.
Et on oublie aussi un peu que Ramos est aussi un bon joueur de ballon. J'ai vu deux fois le match, je l'ai vu un peu avec deux types de commentaires, d'ailleurs, d'avoir le commentaire de Bean, ensuite les commentaires de TF1. Avec Rudy Garcia notamment, l'excellent Rudy Garcia en consultant.
Tout à fait.
Et c'est vrai que Ramos, en examinant bien son match, ouais, il est quand même capitaine jusqu'au bout des ongles.
Ouais,
David,
c'est
si vous voulez. Vas-y, j'ai.
Oui, non, mais je voulais dire, il a fait un match très propre. On voit qu'en plus, il a cette fibre, ben, comme un peu au Real, hein, c'est celui qui mène l'équipe, qui essaye de, quand ça va pas, de tout faire pour que, voilà, sortir la tête de l'eau. Mais en fait, au final, ce qu'on dit pas assez, c'est que c'est un premier match, en fait. Et c'est voilà, on se met dans le bain. On a eu une préparation qui est quand même un peu tronquée pour certains au niveau Real, et puis pour d'autres. Il y a eu une grosse prépa physique avant ce mondial. Et là, on est en train de se jauger, se juger. Et on voit que, en plus, en face, il y a quand même Ronaldo. C'est pas le premier ou le dernier venu. Et c'est vrai que, au final, tu parlais de Piqué, c'est sûr qu'il y a eu des petits soucis, notamment au niveau du coup franc. Mais le match est quand même abouti. C'est-à-dire que, comme tu disais aussi au départ, j'ai bien entendu, tu disais qu'ils sont rassurés par rapport au jeu proposé. Oui, ils ont proposé un très beau jeu. D'ailleurs, c'est, je pense, le plus beau match de ce début de compétition. Et non, je pense que faire 3-3 face au Portugal, dans le marasme qui a été ambiant 2 jours avant avec cette histoire avec Lopetegui, et voilà, bon, on va pas revenir dessus. C'est quand même des bons débuts et je pense que voilà, ça va forger un groupe et je pense que ça devrait bien tourner.
Oui, parce qu'il y a eu, au niveau du jeu, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Le milieu de terrain, et notamment la titularisation de Coquelin et
Ok.
Solekson, parce que ça semblait être un choix de Lopetegui, puisque Hierro n'aurait pas touché le 11 du tout. Donc plutôt que Thiago, dans le 4-3-3, et lui à droite. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un petit papier là-dessus hier, sur son match, parce que c'est le joueur qui a le plus couru en phase offensive et défensive, celui qui a le il a 10% de ses courses à haute intensité, c'est-à-dire entre 15 et 20 km/h. Ses coéquipiers sont à 5% à peine. Donc c'est peut-être le joueur depuis le début du mondial qui a le plus cavalé. Et Marca même dit qu'il a explosé le GPS. Voilà. Et c'est quand même intéressant de voir ce jeu au niveau du terrain parce que Koke Busquets, ça a l'air de marcher. Et ça a libéré complètement Isco et David Silva notamment. Iniesta, on l'a un peu moins vu, mais c'est vrai que il a ce côté-là. Navid le sait certainement mieux que nous. Mais à l'image de Xavi, avant qu'il parte, en 2-3 touches, il aère le jeu. Et c'est une sécurité supplémentaire de se dire, bon, Iniesta, il va pas perdre le ballon, quoi. On va le donner, on va lui donner, puis il va forcément trouver la bonne passe, le bon angle, la bonne solution. Donc même s'il est un peu en deçà physiquement, il arrive à se relancer. Moi, c'est vraiment ce milieu de terrain-là qui m'a vraiment rassuré. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, David.
Bah, franchement, je pense que la présence de, comme vous l'avez dit, Koke, en fait, c'est un côté très Xavi, en fait. C'est qu'il reste vraiment en arrière, ce qui, et du coup, le travail défensif est beaucoup plus facilité que dans le cadre de Thiago ou de Iniesta, qui se projettent beaucoup trop en avant. En se projetant en avant, ils ont moins de temps, ils ont besoin de plus de temps pour revenir. Et du coup, ils se font surprendre sur les contre-attaques portugais. Et juste pour en revenir juste vite fait sur un avis sur le Piqué, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme, c'est que Piqué, il a fait son match. Il a fait son match. Le seul joueur au monde qui arrive à le tromper sur les simulations, sur les possèdes, c'est Ronaldo. Il y arrive au Real de Madrid, il y arrive en sélection. Donc je pense qu'il a fait son match. C'est du Piqué pur. Et
Oui,
du
c'est-à-dire,
coup,
oui, capable d'avoir une petite sorte de déconcentration.
exactement. Et au milieu de terrain, ouais, le milieu de terrain avec Koke, il est beaucoup mieux, je pense. Après, j'aime bien aussi
Les
Thiago,
transitions sont beaucoup mieux, oui.
mais à force d'aller devant, derrière, devant, derrière, je me demande est-ce que Thiago, il se fatigue pas beaucoup trop dès le début de match.
Oui,
Donc,
c'est ça, oui.
je pense que c'est un.
Côté une MMA supérieure, de toute façon.
Par contre, je pense qu'il va jouer contre l'Iran.
Thiago, oui, c'est. Ouais. Moi, je pense que Coquet va. Peut-être qu'il repose Iniesta. Hein. Mais Coquet, je pense qu'il va le titulariser tout le tournoi. Je pense qu'il a gagné sa place. Au même titre que Isco. Alors, bon, là aussi, comme Derrière, vous savez que j'ai pas une passion débordante pour Isco. Je crois que c'est peut-être son meilleur match avec l'équipe d'Espagne. Le plus complet, le plus. Il a couru, il a défendu, il a attaqué, il a été bon dans ses passes, dans ses choix. Je sais pas si c'est le meilleur de sa carrière, mais en tout cas avec l'Arlor. On va parler du match contre l'Italie. Pour moi, l'Italie, c'est un match que l'Italie a donné, parce que c'était un 4-2-4 avec un Verratti qui a décidé de cloper au lieu de courir. Et donc, il avait toute l'attitude pour se régaler. Là, c'était quand même un milieu de terrain très différent, avec Carvalho, avec Fernandes, avec des joueurs qui connaissent bien leur rôle et qui, avec la sélection, qui vont pas faire n'importe quoi, qui restent concentrés. Là, sur ce match-là, j'ai trouvé très bon. Jeff?
Ouais, c'est ce que, enfin, j'allais t'interrompre, mais c'est vrai que quand on voit Isco, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions, où on le sent pas bien, alors je sais pas si c'était la pression, où il y avait, on se dit bon bah voilà, dans un match où on attend sa technique, il a perdu tout le temps, il faisait des, enfin alors je parle pas de sur le, je te parle juste avant la sortie de ça là, hein, on revient sur le petit retour. Donc pendant les 20-25 premières minutes, il était pas là, il était absent. Et là je me suis dit bon, j'espère que la pression du premier match va pas trop le, voilà, lui tomber sur les épaules et refaire ce début de match qu'il avait fait en finale. Et pas du tout. C'est que là, il s'est mis dedans. Alors, je sais pas si le contexte est différent, si il a pris, on va dire, il a pris la pression du côté positif, mais c'est vrai qu'il a été impressionnant au même titre qu'au Coquet. Et quand on voit le jeu proposé par l'Espagne et notamment son milieu de terrain, on peut que qu'applaudir hein, cette performance. Maintenant, c'est vrai qu'au final, il y a un match nul, c'est 3-3, et c'est même dommage. Mais bon, quand on est de l'autre côté, on est à Cristiano et qui fait un match de feu. Bon, voilà. À la fin, je pense que tout le monde était content. Hein. Les amoureux du football ont trouvé ce match. Enfin, je pense que si on devait mettre une note, on est pas loin du 10, quoi.
Oui, et puis on va terminer sur l'attaquant de pointe, Diego Costa.
Diego Costa,
Alors,
oui.
Benjamin Brochet n'est pas là, mais
Ah.
pour ceux qui n'arrivent pas à remettre Benjamin Brochet dans la vie réelle, c'est le jumeau maléfique de Diego Costa. J'ai bien dit maléfique. Mais Et c'est vrai que là, alors ça aussi, gros choix de Lopetegui qui a toujours essayé qui l'a relancé. Et là, il met alors deuxième but, pur but de renard. Mais alors le premier but, quand il fixe toute la défense, qui revient, qui se met sur le pied droit et qui allume, c'est quand même du très très haut niveau. Et ça, c'est très bonne nouvelle pour l'Espagne. Parce que j'en avais parlé, je crois, dans un précédent podcast, il y avait un jeu en Espagne, enfin un journaliste, qui a dit, j'ai inventé un nouveau jeu. Chaque fois que j'entends le mot Morata dans les commentaires de la télé, je bois un chupito, je bois un shoot. Je bois un shooter. Parce que c'était Morata, Morata, Morata. Alors, Morata fait une saison pas terrible. Rodrigo était meilleur, Aspas était meilleur, Costa était meilleur, mais toujours Morata, Morata, Morata. Et là, le 9 attitré de l'équipe d'Espagne, dans le même registre que Morata, vient de mettre un doublé. Et ça retire quand même un sacré poids des épaules à Hierro et à Costa.
Ouais, en plus, on a eu un petit doute au départ sur le 9, hein, on entendait peut-être Rodrigo, et bon, on aligne Costa, et là, il a réussi à faire ce qu'il sait faire de mieux, hein. Agressivité, perforation, tout en puissance
La perforation de la gorge de Pep aussi.
Oui, non, alors ça, ah oui, bon, après Pep, il a fait du Pep, hein. Moi, il me fait rire parce que là, il tombe, enfin, bon, il s'écroule, et au final, il se rend compte que il se prend
Il
le but là.
se relève vite, hein, il voit que ça prend pas.
Bah oui. Et en plus de l'agressivité, de la perforation, du physique, il a la réussite. Et c'est ce qu'on attend d'un attaquant. Et c'est ce qui manquait un petit peu dernièrement, d'ailleurs, on va dire, à l'attaque de l'Espagne. Et là, voilà, il marque un but.
En fait, c'est
Il tombe
justement
plus.
c'est ce réalisme-là qui a manqué aux Marocains contre l'Iran, justement.
Tout à
Et
fait.
justement,
Contre
David,
l'Allemagne, contre le Mexique.
je voulais enchaîner avec le match contre l'Iran. Et donc l'Iran qui a réalisé, on va dire, une sorte d'exploit, pas par rapport au pays, mais par rapport à la physionomie du match, évidemment, avec ce but contre son camp à la dernière minute. Je trouvais les Marocains très bons dans l'entame, beaucoup d'envie. Mais effectivement, ils n'ont pas eu cette réussite-là. Ils ont mangé beaucoup d'occasions. Ils auraient dû marquer. Mais comme souvent, quand on ne marque pas, on s'expose à un coup du sort. C'est ce qui s'est passé. Alors effectivement, c'est très triste pour le Maroc parce que je vois très mal le Maroc maintenant avoir une chance d'aller chercher une qualification. Parce qu'il y a comme le Portugal qui s'annonce. L'Espagne, il faudra voir si elle est qualifiée après le match contre l'Iran. Toi, comment tu as vécu ce match? Après la Coupe du Monde, moi j'ai le souvenir de Madavikia en 98 contre les États-Unis, plus que 2014. Mais t'en as pensé quoi, toi, cette équipe? Beaucoup de solidarité quand même.
Franchement, comparé à 2014, un peu déçu. Mais on voit qu'en fait, il y a vraiment cette solidarité. C'est-à-dire qu'en gros, les joueurs savent qu'ils se battent pour tout un pays, qu'ils ont le soutien de 80 millions d'Iraniens derrière eux. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que dans la défense, ils arrivent même à. En fait, même s'ils ne ferment pas complètement devant les cages, si ça passe, ils savent que. En fait, on a l'impression qu'ils s'attendaient à ce que les Marocains ne soient pas autant réalistes. Et du coup, ils ont vraiment laissé passer. Et contrairement à 2014, où on était vraiment enfermés, on s'est ouvert. On s'est ouvert, on a balancé les balles. L'objectif étant qu'à la retombée ou au dégagement, quelqu'un soit là. Donc, oui, c'est vrai que dans le match, on voyait le Maroc forcer, forcer, forcer. On s'est dit, non, ça va pas passer, c'est pas possible. C'est pas possible que avec une équipe qui attaque autant, ça passe pas à un moment donné et qu'on se prenne pas un but. Et le fait de se prendre deux buts, de marquer, de voir ce but contre son camp à la, je sais pas, je crois qu'il restait 20 secondes, franchement, on n'y croyait pas. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui fait que la joie est encore plus importante. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Au vu du match, on ne s'y attendait pas. Et du coup, on s'est dit, non, c'est mort. On va faire un match nul et on va rentrer au pays au bout de 3 matchs. Alors que là, on commence même. Il y en a qui commencent à se dire, et si on pouvait faire un match nul contre l'Espagne?
Mais justement, il y avoir une sorte de troisième match, ce sera une sorte de Kirosico, on a envie de dire. Puisqu'il va affronter son pays avec est-ce que ça risque d'être une finale pour la qualification? Déjà, comment tu vois le match contre l'Espagne? Est-ce que tu crois que ça va est-ce qu'il y a une autre solution que d'essayer de faire un bloc bas comme on a pu le voir avec différentes équipes? On l'a vu avec l'Australie, on l'a vu tout à l'heure avec le Panama contre la Belgique, même si ça s'est fait en deuxième mi-temps. Comment tu
En
vois
fait,
la préparation du match?
J'ai vu la conférence de presse d'après de Carlos Queiroz, qui est donc portugais déjà, donc au niveau du jeu, c'est le jeu portugais qui est développé, en moins performant parce qu'il peut pas, il doit faire avec ce qu'il a comme objectif. Et il disait que la tactique qui serait utilisée contre l'Espagne pourrait très bien être complètement différente. Et Carlos Queiroz, disons qu'au niveau tactique, il a tout un catalogue à sa portée. Et franchement, dans l'idéal, je pense qu'il faut qu'on attaque plus. Parce que avec Diego Costa en face, j'ai peur qu'au niveau réalisme, on se prenne un but dans les 20 premières minutes.
Pour ceux qui n'arrivent pas, qui ne connaîtraient pas un peu l'histoire de Carlos Queiroz, parce qu'il a été un entraîneur éphémère du Real Madrid. Avant ça, c'était le référent tactique de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Voilà. C'était pas un vulgaire poseur de plots. C'était vraiment l'éminence grise de Ferguson chez les Red Devils. Il a eu plus de mal en étant numéro 1. Bon, alors Real Madrid aussi, c'est un club très particulier. C'est le club où il y a le plus de pression au monde, je pense, sans exagérer. Et avec l'Iran, c'est quand même sa deuxième Coupe du Monde, deuxième qualification.
C'est ça.
Justement, quand il y a, on parle souvent des entraîneurs européens qui vont sur d'autres continents. Par exemple, prenons l'exemple d'Hervé Renard au Maroc. Quand il avait la Zambie, il a vécu en Zambie pour aller chercher les meilleurs joueurs locaux. Et ça a marché parce qu'il a gagné la CAN. Est-ce que Queiroz, il habite en Europe ou est-ce qu'il habite en Iran, Téhéran ou Persépolis, par exemple ?
Alors, c'est un facteur sur le lieu d'habitation, je ne sais pas du tout. Je pense que il doit être en Iran juste lors des moments importants, mais le reste du temps il doit être en Europe, je pense.
Et oui, surtout
au vu de l'effectif, dans la moitié et joue en Europe.
Ouais, et puis il y en a qui jouent sur en Belgique, j'ai vu aux Pays-Bas et puis en Grèce, si je me trompe pas.
C'est ça.
Donc, donc il y a quand même beaucoup de joueurs iraniens qui jouent donc en Europe.
Mais je dis ça parce que ça arrive régulièrement que des entraîneurs, je pense que c'est plus régulièrement dans les pays africains où ils décident depuis l'Europe et sans jamais mettre les pieds, quoi. Mais vraiment, enfin, je dis c'est littéralement sans mettre les pieds du tout dans le pays où ils sont sélectionneurs. Donc c'est pour ça. Moi je suis assez curieux du football en Iran, en fait. C'est un pays où il y a beaucoup de ferveur autour du foot.
Ah oui, totalement. Le foot, c'est le sport national. Il y a bien des sports traditionnels, historiques, mais c'est vraiment le foot qui rassemble tous, même si au jour d'aujourd'hui, les femmes sont interdites dans les stades. Les femmes ont tout autant de passion que les hommes. Et ça fait que ça rassemble beaucoup. Souvent, et quand on voit les scènes de liesse, que ce soit après la qualification contre l'Australie en 98, ou la qualification pour la Coupe du Monde de 2006, 2014, 2018, à chaque fois, on voit vraiment une très grande présence féminine. Et y a, que ce soit les vieux, les enfants, ça rassemble toutes les couches de la société iranienne. Et c'est ça qui fait la force de cette équipe, en fait. C'est cette volonté de satisfaire la totalité des 80 millions d'habitants d'Iran, sans compter les diasporas américaines, européennes.
Oui, parce qu'en fait... vas-y, excuse-moi, termine.
Et ça, c'est ça qui fait qu'en fait, du coup, Carlos Queiroz, il met sa tactique, mais après, d'ailleurs, il y a une grande partie de cette solidarité, de ce patriotisme, cette volonté de rassembler, parce que cette société est différente aujourd'hui. Que ça soit politique, économique et même au niveau du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ceux qui sont en faveur dans les stades, etc. Ce qui fait que cette équipe de foot, c'est la seule chose qui rassemble cette société.
Ah, c'est un élément fédérateur par rapport à dissensions au pays, j'imagine.
Voilà, exactement.
En deux minutes, si tu peux résumer les dissensions en Iran à l'heure actuelle, si c'est possible de le faire.
Alors en fait, au niveau, l'origine est bien sûr politique. On a les conservateurs et les réformateurs. Les réformateurs veulent avancer le pays, moderniser le pays, s'ouvrir sur l'Occident. Les conservateurs veulent rester entre eux. Ils veulent garder un pays fort tout en restant autonome. Donc forcément, les deux parties se font face. D'un côté, on a les éduqués qui sont en faveur des réformateurs, et de l'autre côté, on a les personnes moins aisées qui habitent dans des villages, dans des maisons presque en terre. Donc voilà, c'est comme ça.
À l'heure actuelle, qui est au pouvoir?
À l'heure actuelle, on a au niveau du régime, c'est-à-dire ce sont les personnes qu'on n'élit pas, ce sont les conservateurs. Mais au niveau de ceux qui se font élire, ce sont les réformateurs.
Et pour terminer sur ce thème politique, comment tu vois l'évolution du pays? Notamment, tu parlais des femmes qui étaient interdites dans les stades. Est-ce que tu penses que ça va évoluer dans les prochaines années?
Et ben, la présence d'un gouvernement réformateur, enfin plutôt conservateur modéré, fait que oui, il y a un développement déjà là durant la Coupe du Monde. Il y avait une idée de prévu que le stade Azadi à Téhéran, qui est le plus grand stade d'Iran avec 100 000 places, s'ouvre avec des écrans géants et que les femmes et les hommes puissent y aller ensemble. C'était déjà un progrès. Et les femmes ont déjà accès aux matchs de volley avec une tribune qui leur est réservée. Donc je pense que le progrès arrive doucement mais sûrement.
D'accord, oui, c'est mixte sans être mixte, en fait.
Voilà, exactement. Mais
D'accord.
c'est déjà des progrès. Il ne faut pas penser que dans un pays aussi religieux et conservateur que l'Iran, on puisse passer du jour au lendemain de l'absence totale des femmes à la mixité totale avec des hommes et des femmes qui s'installent côte à côte pour voir un match de foot.
On va revenir au football iranien. On va faire dans le simple. S'il y avait un classico iranien, ce serait quoi? Est-ce que ce serait un derby ou est-ce que ce serait comme un Barça-Real, deux villes antagonistes?
Ce serait, tu veux dire au club, au niveau des clubs, c'est
Au
ça?
niveau des clubs, oui.
Alors ce serait Persepolis contre Esteghlal. C'est les deux clubs phares du championnat iranien, les deux plus gros clubs de Téhéran. Ce serait donc un derby de Téhéran. Et c'est l'un des derbys les plus chauds que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que ça se termine aux bagarres, dans les rues de Téhéran, avec parfois des blessés. Et donc c'est très très violent. Parce qu'en fait, il y a le Persepolis qui est le club du peuple, et Esteghlal qui est le club des politiciens, comment dire, des dirigeants.
D'accord. Toi, c'est Persépolis.
Oui.
Ah, c'est ce que j'ai vu que ça se disputait un jour de derby. Je crois que
Oui.
c'est Persépolis qui a gagné 1-0 le dernier derby, c'est ça?
Non, on l'a perdu.
Ah oui, ah, j'ai confondu. J'ai confondu.
Alors qu'en cas de victoire, c'était le titre.
D'accord.
Un
Et là,
point décisif.
pour l'instant, qui est en tête?
On a gagné le championnat il y a un mois.
D'accord, très bien. Ah oui, mais oui, je pose des questions. Oui, effectivement, la saison est finie, oui.
Pas de souci.
C'est vrai qu'on parle pas assez de la ferveur dans les pays arabes, hein, au niveau football, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein. Qu'on prend déjà le Maghreb, mais en plus on va parler des pays vraiment au niveau des Émirats et tout ce qui s'en suit autour, il y a vraiment une ferveur et une passion incroyable,
Tu peux
hein.
même pousser plus loin, tu peux aller en Indonésie, en Malaisie, ils font des tifos incroyables.
Ouais.
Alors, bon, au Japon, pareil. Et là, ben justement, il y a demain, je crois que l'Égypte va jouer. L'Égypte a un championnat très très fort. C'est le pays d'Afrique avec le championnat le plus relevé que le Zamalek et Al-Ahly. Fatalement, ça se ressent aussi dans. C'est ça qui était étrange avec l'Égypte, pour vous, une petite parenthèse, le fait qu'ils ne soient pas allés au mondial depuis 90 avec un championnat aussi fort et avoir gagné des CAN. Voilà.
Ouais.
C'est ça qui était surprenant. On va terminer sur le football iranien avec Benjamin Bouchet qui a écrit un article sur la présentation des équipes du mondial au travers du prisme espagnol. Et il a parlé de Javad Nekounam. Qui a été le capitaine d'Osasuna, qui a commencé sa carrière qui est le joueur le plus capé de l'histoire d'Iran devant Ali Daei. Ali Daei, qui était l'homme à la moustache, il était même sponsor maillot de l'équipe nationale, si je ne me trompe pas, et qui
Oui,
était iranien.
à une époque, il était l'équipementier, je crois.
Ouais, c'est ça, il faisait un peu tout, il était buteur, capitaine, équipementier. Enfin, voilà, bon, bon, moi j'ai 30 ans, donc je pense que les gens qui ont à peu près ma génération, qui ont découvert l'Iran en 98 à la Coupe du Monde, se rappellent très bien de ce joueur. Donc pour revenir à Nekounam, il a battu le record de sélection d'Ali Daei, qui est quand même un monument. Et il commence à devenir entraîneur. Je crois qu'il est entraîneur en deuxième division iranienne et qu'il est monté, je crois.
Oui, c'est ça. Il a fait monter son club en première division cette année. C'est énorme ici. Il venait à peine d'arriver en plus, si je me trompe pas.
Personnage charismatique?
Comment?
Personnage charismatique?
Ah oui, totalement. C'est quelqu'un de très très apprécié par le peuple. Il s'est souvent exprimé en plus sur des sujets qui touchent la société, et c'est ça qui aime le peuple aussi, c'est que les joueurs puissent s'exprimer de temps en temps en faveur du peuple, ou au moins sur des points qui intéressent le peuple, que ce soit l'économie ou la politique.
Est-ce que tu le vois succéder, peut-être pas tout de suite à Kerloch, mais disons à horizon 2022 ou peut-être 2020, je ne sais pas, admettons, qu'il devienne une sorte d'adjoint aussi peut-être, une caution même populaire pour Kerloch.
Il
Enfin,
faudrait,
si Kerloch reste, si Kerloch reste,
il
voilà.
faudrait suivre en fait dans un premier temps déjà sa saison en première division, mais pourquoi pas sur le long terme.
Est-ce que tu vois Kerloch prolonger après la Coupe du Monde?
Ça va être difficile en fait, Carlos Queiroz, il subit un peu la politique de la fédération iranienne, qui est parfois c'est oppressant, parfois elle se mêle des affaires sportives, alors que Queiroz aime bien avoir de la liberté. Et ça peut potentiellement le pousser. Déjà, après 2014, il y avait eu un problème je crois, sur le paiement de salaire ou quelque chose comme ça, et qui a bien failli le renvoyer. Il a fallu un gros appui populaire pour le garder. Et je pense que, déjà, j'ai vu des vidéos de fête après le match contre le Maroc où beaucoup criaient son nom. Donc, à voir, il faudrait voir comment ça se développe, mais pourquoi pas? Parce que Carlos Queiroz, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup réussi dans d'autres clubs, dans des équipes. Là, il a vraiment réussi, il arrive à rassembler autour de lui, et ça, c'est énorme. Je pense qu'il pourrait rester, mais c'est du 50-50 pour l'instant.
Et surtout avec ce résultat, parce que vous imaginez même pas le drame que ça a été du côté donc des Marocains. Donc à mon avis, c'est à l'opposé de la joie iranienne. C'était vraiment la tristesse marocaine à l'opposé de la joie iranienne.
Je comprends totalement les Marocains et j'en suis désolé, mais c'est le foot, ça se passe comme ça.
Ah oui, non mais c'est.
Mais c'est après que Kairos, même, je pense que même s'il va en huitième de finale, il y a vraiment cette partie de la fédération qui veulent. Il y a de la corruption, il y a des choses qui se passent qui sont pas très correctes, et que Kairos pourrait ne pas aimer et donner sa démission et partir.
D'autant quand même que la corruption, c'est l'apanage aussi de grandes fédérations comme celle de l'Espagne, qui en la matière est quand même très très haut niveau quand même. On va voir ce que ça donne avec Rubiales,
Et au niveau européen, avec peut-être la Serbie, Bosnie, mais à niveau mondial, je pense qu'il y a des records dans certains pays énormes.
Pour terminer cette page sur l'Iran, Jérémy et Navid, un pronostic pour le match contre l'Espagne.
Vas-y, Navid.
Oula. Alors, je vais essayer d'être objectif. Je pense que l'Espagne va gagner 2-0. Et si on a une chance, peut-être un 2-1. Mais en n'étant pas objectif, un partout.
Alors, ouais, bah moi c'est surtout que quand on voit la possession que le Maroc a eue avec 60%, je crois, et 30%, alors je pense qu'avec l'Espagne ça sera encore plus haut. Et je pense qu'il y aura vraiment, ça sera vraiment une attaque défense. Et non, non, moi je vois plus de 3 buts, ouais. 3 buts pour l'Espagne, donc 3-4-0.
Moi aussi, je vois bien 3 buts d'écart quand même.
Ouais.
Euh, je n'ai pas, je n'ai pas spécial. Enfin, ouais, c'est dommage parce que, mais bon, je ne veux pas faire insulte à notre hôte, mais.
Non, non, pas de souci. Non, mais après, par contre,
Enfin, le problème,
faudrait.
pas par
C'est
rapport à
juste
l'Iran.
que, en fait, les Marocains nous ont sous-estimés et il faudrait pas que ça vous arrive.
Ouais, mais là, ça se fera pas. Tu sais, quand on a vu une fois, je pense que là, ils sont prévenus.
Est-ce qu'Eros change d'attaque? Comme si comme il le sous-entend, ça va être différent. Et il ne faut pas oublier que les trois attaquants titulaires de l'Iran jouent tous en Europe.
Oui, il y a un très, il y a un excellent buteur, mais c'est pas le meilleur buteur des Pays-Bas. Tu peux dire
Voilà,
aussi. Ah, c'est ça.
c'est Adana Djanbakhsh. Il a fini avec 23 points en championnat néerlandais. C'est même s'il était un peu timide, j'ai l'impression, contre le Maroc. Il y a Sardar Azmoun qu'il faudra se méfier. Il connaît les terrains pour y jouer depuis le début de sa carrière, il y a 6 ans, alors qu'il a 23 ans. Et l'autre, bah, c'est Karim Ansari Fard, qui doit un peu connaître l'Espagne, étant donné que c'est un ancien d'Osasuna, vu qu'il a joué une saison 2014-2015 chez vous. Donc, à voir.
Ah oui,
Mais
on sait qui
attention. Ouais, c'est ça. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais comme vous l'avez dit, cette défense solidaire pourrait être l'arme idéale de l'Iran pour empêcher l'Espagne d'entrer. Et aussi peut-être un système à la islandaise sur Diego Costa et 4 défenseurs dessus, je sais pas. Mais que le meilleur gagne, j'espère que le meilleur gagnera, même si c'était pas le cas contre le Maroc.
C'est bien de
Ouais.
l'avouer, c'est beau.
Évidemment, on va évidemment suivre la tactique, le choix tactique de Kairos, oui, puisque évidemment, c'est un excellent tacticien et oui, il a forcément prévu quelque chose de,
C'est sûr.
un traitement de faveur. Et puis, il faudra aussi voir le jeu de proposé par Hierro. Je pense qu'il va quand même retitulariser Costa, parce qu'il a très peu d'espace et que ça quand
Il
même
en
un.
aura. Diego Costa, moi je serais l'héros, je mettrais Diego Costa, je mets
Bien
pas
sûr.
personne d'autre. Il est trop réaliste en face des buts. La moindre espace, il en profite pour tirer. Et c'est ça qui est la force de l'Espagne.
On va achever ce podcast avec notre traditionnel tour des playoffs des divisions inférieures. Et enfin, on a l'épilogue. J'ai enfin l'épilogue de Segunda. Et
Oui.
mon rêve de voir Domancia monter juste pour t'embêter ne s'est pas réalisé.
Non.
C'était déjà plié depuis le match aller, vu 3-0 à Domancia, un partout au match retour. Valladolid et Pachejron est de retour en Liga.
Ouais, la logique est respectée.
Et c'est une assez bonne nouvelle parce que c'est une très belle affiche.
Tout à fait.
L'affiche Poussel, là, c'est vraiment bien qu'un club comme ça revienne. La fête à Diego Costa, la fête à Fernando Hierro, puisque Fernando Hierro est formé à Valladolid et que Diego Costa s'est révélé à Valladolid. Comme quoi, il y a quand même deux, trois joueurs qui sont passés par ce club-là. Ruben Baraja, évidemment, pour les valencianistes qui m'écoutent. Ils sont nombreux. Voilà, donc c'est un peu surprenant parce qu'ils étaient quand même ils ont fini la saison cinquième. Comme tu l'as dit à plusieurs reprises, Chiron s'est complètement vautré, fin de saison catastrophique. Balara va rester.
Ce qui est bizarre. Enfin, moi, je suis sceptique sur ce choix. Parce qu'il n'a pas su dans les 6 derniers matchs remettre à flot l'équipe et je sais pas donc s'il va repartir sur les bonnes bases notamment donc pour la prochaine saison et moi je le vois pas finir enfin après j'annonce hein, mais je vois pas finir Balara sur le banc la saison prochaine.
Pour revenir à Valladolid, Jaime Mata a été le grand bonhomme de la saison.
De la saison.
Mais le problème, c'est qu'il a annoncé qu'il partait.
Oui, bah en fait il était libre en fin d'année. Et puis ça s'est déjà joué avec Retafe depuis quelques mois. Hein. On savait plus ou moins que c'était déjà plus ou moins conclu. Et donc il se frotte les mains, hein, parce qu'en plus il le voit arriver sans débourser un centime. Donc
Ouais, 29 ans, il sort d'une saison à 35 buts.
voilà. Donc
Bon,
c'était sa saison. Maintenant, il fera pas aussi bien l'année prochaine, mais je pense que devant, voilà, il va faire énormément de bien à Retafe. Maintenant, Valladolid qui monte sans son buteur. Voilà, il va falloir recruter
ouais, il va falloir du bon recrutement parce que pour remplacer un gars qui
un
marche
gars comme
sur
ça.
l'eau, ouais.
Ouais.
Surtout que, alors Retafe, très bonne nouvelle pour Retafe et Bordalas. Alors non, Bordalas devrait rester, je pense, pour une troisième saison, la deuxième en Liga. Devant, il a Jorge Molina, Angel Rodriguez. Alors, Angel est annoncé partant. Donc, il a déjà trouvé son remplaçant. C'est pas mal parce qu'une attaque Molina. Bon, Molina, il est un peu lent quand même. C'est un bon joueur, mais c'est pas non plus la folie. Ça peut faire un duo de trentenaire plutôt sympathique. Et puis, bon, avoir quelqu'un qui plus buteur que Molina, parce que Molina, même s'il a quand même fait une très bonne saison, et Angel aussi,
Ouais, c'est
je pense
plus des
que, ouais, il a plus olfato. Donc bon, bah, et puis peut-être que tu as fait venir un club de buteurs, sait-on jamais.
Pourquoi pas?
Dernier tour sur la Segunda B, les finales de playoffs.
Oui, bah, c'est bien parti. Là, on a donc eu deux matchs aller. On a eu donc Extremadura qui a gagné 1-0 contre Cartagena. Et puis on a Elche qui a battu Villarreal B 2-0.
Qui a marqué pour Elche?
Ben Nino, hein, pour changer. Ah non, mais lui, il est énorme. Et donc match retour ce week-end. Bah, avantage quand même aux deux clubs qui ont gagné ce premier match. Ce qui serait sympa parce que Extremadura, c'est aussi une belle équipe avec une belle aficion qui remonterait en Segunda et puis Elche qui est très connu aussi pour être avoir un petit passif historique et dans cette division aussi. Donc oui, ça serait bien pour
Oui,
la
mieux
division.
que alors Cartagena, c'est vers Murcia pour ceux qui n'arrivent pas à situer. Et Villarreal B, ça ferait une autre,
Une équipe B. Bon.
ouais, ça ferait une autre, ça ferait oui une autre cantera. Je sais pas si
Ouais.
c'est. Oui, on préfère avoir des équipes une plutôt que des équipes B.
C'est ça, c'est ça.
Voilà. Ouais, désolé, Navid, mais bon, Barça B.
Non, pas grave, t'inquiète.
Mais bon, ça va être intéressant à suivre l'année de Segunda B quand même parce que c'est un peu en train de se
D'ailleurs,
réaliser.
vous avez parlé du manque de buteurs du côté de Real Valladolid, et je pensais justement à la situation de José Arnaiz au Barça B. Est-ce qu'il pourrait potentiellement penser à. Est-ce que Valladolid pense à lui pour un prêt ou un truc comme ça?
J'ai rien vu dessus, mais effectivement, ce serait une bonne idée. Non, je pense que t'en
Oui,
penses.
bah, je pense qu'il y a des chances pour que certains joueurs du Barça B, pourquoi pas aller renforcer quelques bonnes équipes de Segunda ou voire des promus. Oui,
Surtout
surtout que
ceux qui ont été achetés et que, comment il s'appelle, Pimienta n'en veut pas.
c'est ça.
Oui, puis Anaïs, il est formé là-bas. Il est formé à
Exactement.
donc, oui,
Ouais, ça
ça serait intéressant.
ça lui ferait du bien en plus après 4 mois de blessure.
Ouais.
Oui, non, mais de toute façon, c'est des joueurs qui ont besoin de s'aguerrir au plus haut niveau. Et là, ils ont passé une saison un peu galère en Segunda. Je pense que c'est formateur. Maintenant, il faut aller voir l'étage au-dessus. Je pense même que des joueurs comme Carles Sardegna auraient quand même tout intérêt à aller chercher du temps de jeu en Liga plutôt que d'espérer éventuellement avoir 10 minutes par-ci par-là avec le Barça. Je pense que ce serait quand même beaucoup mieux d'avoir une continuité dans
Le problème,
le.
c'est que ça perd un peu du jeu du Barça. Personne en Espagne ne pratique ce jeu, donc peut-être que c'est aussi une raison que personne ne veut pas les prêter, notamment ceux de la Masia.
L'éternel dilemme,
Ouais.
le dicton, c'est le Real Madrid fabrique des footballeurs, le Barça forme des joueurs du Barça.
Voilà.
Donc, bon, il a quand même un peu de ballon, Carles Sardegna. Je pense
Ouais,
que,
bon.
ouais, je pense qu'il faut s'adapter à d'autres styles. Après, peut-être que Pimienta, ça peut être aussi mieux que Gérard Lopez, ça peut être que mieux que Gérard Lopez, de toute façon.
Le problème, c'est qu'Aleñé, il passe en équipe A, du coup, Pimienta, il va pas. Et il
Oui, c'est
faudrait
vrai.
voir quand il va revenir. D'ici là, qu'on aura recruté pour voir est-ce que Aleñé va avoir une chance ou est-ce qu'il va préférer peut-être le prêter ou le laisser en B. Je sais pas. Il y a beaucoup de chamboulements au Barça en ce moment.
Ouais, tout est à construire là, de façon B. Hein.
Déjà, demain, la conférence de presse d'Abidal pour voir nous propose.
Ça va être chaud bouillant
Ouais, je
pour
pense
Abidal.
aussi.
Ah, qui a comme adjoint Planès, qui était le responsable de recrutement de Getafe.
Bon ou pas? Juste fait.
Comment?
Il est bon ou pas?
Bah, moi, je pense qu'il a fait de bons choix. Si je pense, il a ramené Djené Dakonam. Là, il vient de ramener Mata. On vient d'en parler. Non, je pense que c'est oui. Enfin, après, être recruteur à Getafe, être recruteur au Barça, c'est quand même deux jobs différents. On n'est pas dans la même catégorie. C'est comme par exemple, on prend l'exemple de Monchi. Monchi à Séville ou à la Roma, ça peut fonctionner. Après, si tu te mets dans un club comme Real Madrid-Barça, est-ce que tu as vraiment besoin d'observateurs pour aller chercher tes joueurs? Est-ce que ça se passe? C'est un peu. Ça me semble un peu différent comme travail. Après, je pense qu'à oui, après Getafe, il a fait du bon boulot. Je pense que oui. Oui, sur les 2 années qu'il a passées, oui, pour moi, ça a fonctionné.
Ok, si.
Je ne sais pas si vous entendez la clameur du stade, mais c'est bientôt Tunisie-Angleterre. Donc c'est le moment de nous quitter. On a fait un podcast un peu express, mais de très grande qualité ce soir.
Oui, FM, je peux petit mot sur les payoffs Tercera si tu veux ou
Ah,
pas?
vas-y, vas-y, volontiers, volontiers.
Oui, alors parce que là, on a eu encore les matchs aller du dernier tour des playoffs de Tercera. Et donc, on a eu des surprises et des confirmations. On a quand même une surprise qui est que Almeria B a été gagné 6-3 à Villa Robledo. Donc quand même un match un peu, on va dire, un peu qui se rapporte au tennis, hein, parce que ça fait un 7, 6-3. Et puis on a nos Castellón là, nos petits
Oui.
chouchous de Castellón de la Plana, qui a donc on fait match nul dans les arrêts de jeu 1-1 à Portugalete. Et donc ils reçoivent ce week-end donc pour le match retour. Donc là, l'aficion va être vraiment au rendez-vous. Ils sont déjà en train de vendre des places. Il y a la queue sur la route donc qui jonche la billetterie. Donc gros match retour donc du Castellón. Et Orihuela a aussi gagné 2-1 donc contre Langreo chez lui. Donc là, ils se sont pris un but à l'extérieur. Enfin donc le but à la maison. Donc ça va être un peu compliqué là-bas à Langreo. Et donc voilà un petit peu pour les gros. Et oui, sans le Luqueño qui a encore gagné 3-0. Et donc avec notre Guisa et qui devrait donc monter en Segunda B l'année prochaine. Donc on a encore et Ibiza aussi qui a gagné 1-0. Donc ouais voilà. Donc un petit peu pour faire le tour. Ça promet donc des beaux petits matchs retour pour cette finale playoff Tercera.
Et lundi prochain, on parlera donc de l'épilogue
Voilà.
de ces playoffs de Segunda B et de Telcel. La saison est très très longue en Espagne, plus que jamais. Et d'ailleurs, pour prouver l'incompétence du sport espagnol, la finale de basket de Liga ACB, quand même le championnat le plus puissant en Europe, se dispute pendant la Coupe du Monde. Et je crois que le Barça gagne 2-0, le Real Madrid gagne 2-0 contre Baskonia. Mais deux, ouais, personne ne s'y intéresse, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et
Je suis
la saison de ça t'a une plus tard cette saison que l'an dernier, d'ailleurs, au passage.
Ah, ça a beaucoup duré.
Ouais,
C'est
non,
bien.
mais l'année dernière, je crois qu'il y a 2 jours, c'était la fête de l'année du titre de Valence. Et donc la saison passée s'est terminée plus tôt que la saison que cette saison-là, une saison de Coupe du Monde. Donc c'est complètement aberrant. Voilà, bienvenue en Espagne. Dans tous les sports, c'est la folie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je remercie Navid pour être venu parmi nous.
Merci pour l'invitation, c'est un honneur.
Bah, tu reviens quand tu veux, puis c'était parfait pour nous parler
Je
de
peux revenir
l'Iran.
lundi prochain alors.
Comment? Ah
Lundi
ben.
prochain, on parlera d'Espagne-Iran, comment on
Bah,
vous a
volontiers. Volontiers. Peut-être même qu'on fera un débrief après le match, mercredi. Puis, si tu te sens. Tu es le bienvenu chez nous, comme d'habitude.
va, merci.
Tu as la lumière, il n'y a pas de souci. J'ai
Oui.
bon début de soirée.
Merci. On va
Notre
regarder un petit Tunisie, Angleterre.
Attention, parce que je dis ça pour les dames qui nous écoutent. J'ai est un mannequin maintenant.
Oui, tout à fait.
Il a posé avec un autre t-shirt Furia Liga, un t-shirt de la volée de Zidane. Et vraiment, si vous allez sur son compte Twitter, il y a une petite démarche. Il y a une petite démarche.
On essaie, on essaie.
Le Johnny Depp de Santa Claus.
C'est ça.
Vous pouvez nous suivre sur foyaliga.fr, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur Discord pour parler pendant les matchs avec nos rédacteurs. La boutique, évidemment, qui est dispo. On va rajouter quelques petites illustrations bientôt. Pardon. Là, notre chaîne YouTube avec les vidéos, notamment de Soledad Arquet-Vázquez sur Rodrigo, Busquets et Sergio Ramos récemment. Notre guide des 23 dollars, l'or, pour être incollable. Pendant le mondial, parce que la Roja va aller très très loin et Foya Liga va aller très très loin aussi. Rendez-vous le 15 juillet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, tout simplement, hasta luego. Ciao. Allez.